Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 3.
Nous sommes des êtres de liens, des liens qui nous rapprochent et qui parfois créent des fossés irrémédiables.
Dans ce troisième épisode, Aube s'est penché sur les liens qui unissent les gens entre eux.
La communication non-violente, l'utopie de Rouville, l'île des gauchers, l'écologie relationnelle de Jacques Salomé, la fête des voisins, le film La Belle Verte, l'autisme, la vieillesse sont quelques sujets abordés dans cette émission.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Les liens.
À toi que j'aime. Je suis tombé amoureux de toi entre deux stations, comme ça arrive à n'importe qui vient d'arriver à Montréal. Un jour, tu prends le métro, comme à tous les autres jours. T'écoutes de la musique ou tu lis un livre. Les portes s'ouvrent, puis là, elle ou il rentre et ton cœur chavire. Je sais que c'est impossible que ça soit à long terme. Tu débarques à Laurier, moi à Jarry. Notre relation va être éphémère. Mais rien ne nous empêche de se faire du bien. C'est sûr que notre relation ne sera pas celle que la norme propose. Les différents modèles ne fitent pas pour notre histoire. Il n'y a pas vraiment de case dans laquelle on pourrait nous mettre. Veux-tu? On va être des amants en deux stations. Le mot amant est peut-être un peu fort. Je veux pas te faire peur. C'est juste que je sais pas quel mot utiliser. Je veux dire qu'on pourrait partager ensemble. Échanger de l'amour pour de l'amour sans condition. Sans les contraintes de case. De toute façon, toutes les relations sont à redéfinir. Ma relation avec mes parents, mes sœurs, mes amis, mes voisins. Comment on va tous réussir à vivre ensemble sur notre petite planète? En tout cas, il va falloir s'aimer. Et toutes les façons d'aimer semblent bonnes aujourd'hui. Même s'il n'y en a plus aucune qui fit dans aucune case. Ma grand-maman me dit souvent qu'elle ne comprend pas pourquoi on se torture le cœur comme ça. Mais pour moi, s'il y a bien une chose qui me réconcilie avec mon époque, c'est qu'on peut, de plus en plus, aimer qui on veut comme on veut. Il y a des gens qui s'aiment à trois ou à quatre, ou à deux, dans des relations ouvertes, à deux gars, à deux filles, des amours passionnés, des amours platoniques, des amours le temps d'une nuit, d'un été, ou pour l'éternité. Dans ce contexte-là, il faut échanger et communiquer, essayer de se comprendre. Prendre les choses comme elles viennent, selon ce qu'on vit dans le moment. Je sais que les choses étaient compliquées avec ton ex, puis que t'aspires pas tout de suite à une vie à deux. Moi, je tiens pas en place, je pourrais me retrouver n'importe où dans le monde en deux semaines. Mais je suis content que toi puis moi, on ait partagé quelque chose ensemble. J'espère que ça t'aura fait autant de bien qu'à moi, puis que ça nous fera sourire quand on sera vieux.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Entre
ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que vous avez envie d'entendre,
ce que vous croyez entendre,
ce que vous entendez,
ce que vous avez envie de comprendre,
ce que vous croyez comprendre,
ce que vous comprenez.
Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même.
La CNV, acronyme pour communication non violente, a été développée voici plus de 40 ans par Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique de l'Université du Wisconsin. C'est la recherche de moyens rapides et sûrs pour favoriser la paix qui l'a conduit à instaurer au fur et à mesure son enseignement de la CNV. C'est en 1984 que fut fondée aux États-Unis l'organisation à but non lucratif, le Centre pour la communication non violente. Ce centre a pour objectif de promouvoir les capacités à entrer en relation avec soi-même et avec les autres, de partager les ressources et de résoudre les conflits dans un esprit de bienveillance à l'aide du processus de la CNV. L'organisation maintenant internationale offre des séminaires de communication dans plus de 30 pays. La CNV favorise la vie présente à l'intérieur de l'individu en mettant l'attention sur les besoins des êtres humains. L'objectif n'est alors plus de vouloir argumenter sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, ni de tenter d'identifier qui a tort ou qui a raison. L'intention première en pratiquant la CNV n'est pas que l'autre fasse ce que l'on veut, mais plutôt de créer une connexion dans laquelle les besoins de chacun sont respectés. Les prémices de la CNV sont d'ailleurs que nous essayons tous d'assouvir nos propres besoins. Nous nous portons mieux lorsque nous savons répondre à nos besoins dans un esprit de coopération plutôt que d'une manière agressive. Nous nous portons mieux lorsque nos actions sont motivées par l'empathie et la compassion plutôt que par la peur, la culpabilité, la honte ou la contrainte. Chacun de nous a des ressources personnelles remarquables s'il reçoit l'empathie qui lui permet de se mettre en lien avec ces dernières. La communication non violente est composée de quatre étapes simples qui demandent un certain entraînement pour être maîtrisées. La première étape en CNV est d'identifier les faits d'une situation donnée sans faire intervenir ses propres interprétations. La deuxième étape est l'identification des sentiments vécus, par exemple la colère ou la peur. En troisième lieu, l'identification du besoin, car sous chaque émotion se cache un besoin qu'il est utile d'identifier. La colère, par exemple, nous donne l'information qu'il existe un obstacle à la satisfaction d'un de nos besoins. De cette manière, ce n'est plus l'autre qui est la cause de mes sentiments, mais la source réside plutôt dans le fait qu'un de mes besoins n'est pas satisfait. En quatrième lieu, faire une demande concrète et surtout positive. La CNV nous aide à mieux identifier notre vécu émotif et répondre à nos besoins de manière pacifique pour les autres et surtout pour soi-même. Il est important d'avoir accès à une approche qui nous permette de sortir de cette tendance si violente qui nous pousse à donner tort et raison. La communication non violente paraît simple d'approche de prime abord, abordée de façon rationnelle. C'est lorsque se présente un conflit que le travail commence réellement. Si l'idée de la CNV vous intéresse, la lecture de nombreux livres de référence est un excellent début. Il existe aussi de nombreux formateurs qui offrent des conférences et des ateliers.
Tu veux ma photo, banane?
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, and just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing, paid for every dance, selling each romance, oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away, what will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares
for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? Cause I ain't so bad then.
Ain't got nobody.
Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me.
Mon petit gars, m'en va te tricoter une belle paire de pantoufles en laine de sourire.
Mère Grand, comment ça se fait que dans ton temps, tout le monde se disait bonjour? Ça devait être dur de sourire tout le monde dans la rue comme ça.
Ben non, mon petit. Ça se faisait naturellement, ces choses-là. On n'y pensait même pas.
Ouais, mais tu sais, genre, comme, sourire, là, tu sais, ça active bien trop de muscles dans notre facial, puis parfois, je sens toute ma face craquer. C'est pas super bon, ça, pour mon maquillage.
Et pourquoi pas te pratiquer pour voir? Tiens, regarde-toi dans le miroir ici, là. Bien. Maintenant, pense à quelque chose de beau, de tendre ou à un instant mémorable.
Tu sais, genre, la fois où j'ai eu mon PlayStation.
Ouais, quelque chose du genre.
Ah! Chatez-moi pas, là.
Regarde tes yeux briller à cette heure.
Ah, wow! C'est ça que ça fait sourire.
C'est encore plus fort lorsque tu ouvres la porte à quelqu'un ou encore que tu aides à ramasser le joli mouchoir brodé d'une demoiselle.
Ah, comme dans Mary Poppins. Ça n'existe plus, ça, dans notre temps.
Bah, tu sais, les modes finissent toujours par revenir aux 20 ans. Attends de voir. L'année passée, c'était la barbe. Cette année, les mini-jupes.
Ah, en tout cas, ça serait hot dans notre temps. En tout cas, parce que, ben, c'est bien plus facile que de perdre mon temps sur le Tinder réseau machin.
Vas-y, pratique-toi. Un pas en avant. Sourire. On se pense pour ramasser le mouchoir. Sourire. Vous avez perdu quelque chose, mademoiselle?
Et claque d'en face en se faisant traiter d'harceleur, masochiste, machiste, violeur de basse-cour.
Ah, mon pauvre petit gars. Dans quelle drôle d'époque es-tu atterri?
OK, OK, je recommence. Sourire.
Tu vois que c'est maintenant pas mal plus naturel.
OK, mais maintenant, raconte-moi comment vous voyez à cette heure.
Bon, viens ici que je te tricote un tricot en fibre de petit bonheur.
Ah, wow, genre un beau polo vert.
À Montréal, il suffit souvent d'un détour pour tomber sur quelqu'un d'extraordinaire.
Salut, enchanté, moi c'est Guillaume.
Salut, moi c'est Marie.
Salut Marie. Marie, on se croise comme ça dans ta ruelle, il y a de l'activité autour de nous. Est-ce que c'est toujours comme ça chez vous?
Pas mal souvent, surtout l'été évidemment, mais c'est sûr que déjà dans la ruelle, il y a beaucoup d'enfants. Fait que ça fait vraiment une vie de quartier intéressante. Puis ça recrée des liens, ça refait sortir les enfants dehors. Puis c'est vrai que ça fait de l'action, puis qu'il y a toujours beaucoup de monde à la maison, puis autour, puis ça se déplace. Puis...
Présentement, c'est un peu ça qui se passe dans ta cour. Là. On prend le temps de jaser un peu, mais il y a des gens qui sont en train de travailler sur leur propre boîte à savon.
Ouais. c'est exactement ça. Je sais pas trop comment va finir cette histoire-là, mais écoute, ils se lancent. Et puis,
Mais qu'est-ce qu'ils font exactement?
Ah ben, ils ont pris une vieille voiture en plastique. Mon père était ébéniste, donc il y a des outils, il y a du bois, tout ça. Puis là, ils ont décidé de faire une boîte à savon. Je sais pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont, autres aussi. Mais, tu sais, il y a deux voisins à deux maisons là. Il y a un petit garçon qui habite un peu plus loin. Il y a une maman qui les aide là. Tu sais, c'est très...
De plus en plus dans les ruelles de Montréal et dans toutes les autres villes du monde, on voit les gens se rassembler pour se créer des milieux de vie plus humains.
Tu organises des choses aussi chez vous. La dernière fois qu'on s'est croisés, il y avait une soirée chez toi aussi. Donc, il y a un peu toujours quelque chose qui se passe dans la ruelle ou sur la terrasse. C'est important pour toi?
Oui, c'est vrai que pour nous, la ruelle, c'est devenu un milieu de vie, quelque part. Un milieu de vie pour les enfants, un milieu de vie pour les adultes. Quand on organise la fête des voisins durant l'été, on enlève les clôtures, on fait une scène avec le balcon, puis on met nos chaises, notre barbecue dehors, puis tu sais, on occupe l'espace. Donc, je pense qu'il faut vraiment occuper l'espace urbain. Puis on invite tout le monde, justement, parce qu'il faut que les gens se parlent. On est dans une société quelque part aujourd'hui où les gens, ils sont un peu en silo.
La fête des voisins, également nommée Immeuble en fête, est une fête à l'origine française qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale afin de rompre l'isolement et de créer un sentiment d'appartenance au quartier.
Puis, présentement, ça va bien, le voisinage, tout le monde. Et c'est sûr que des fois, il y a des conflits, non?
Oui, des fois, c'est sûr. L'autre jour, les enfants sont venus et disent « Oh, la dame, on a envoyé son ballon dans la cour, puis elle était vraiment pas contente, puis elle était vraiment fâchée. » Puis, tu sais, c'est vrai que des fois, tu sais, on est sûr, c'est sûr qu'on est les gens, les musiciens de la ruelle, là, tu sais, puis on jam, puis ça, puis juste, ça doit probablement déranger certains, là, mais ils se manifestent pas trop, ça va.
Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, il y a des gens aussi qui ça a un impact positif dans leur vie, de savoir que ça existe?
Je pense que oui. Il y a clairement des gens, le voisin d'en haut a déménagé il y a deux mois, puis il dit que ça a changé sa vie, là. Tu sais, il dit, j'étais dans un quartier où on parlait pas à personne, ça, là, je rentre le soir, t'sais, on descend, on prend un petit verre sur le balcon, on décompresse la journée, on jase avec les autres. Fait que c'est sûr qu'il y en a que ça dérange. Il y en a... Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a que le bonheur, ça dérange.
Ah fait. Ouais, hein?
Ouais.
Puis toi, ta solution pour ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Écoute, il faut laisser aller.
Tu penses qu'on peut les contaminer aussi, ces gens-là?
Ah, il faut toujours essayer. Okay. Faut toujours les inviter quand même. Faut toujours continuer à les inviter.
Excellent. Pour toi, comme jeune adulte, ça a quoi comme impact de pouvoir rencontrer tes voisins comme ça? T'es en plus des enfants, évidemment.
Bien, c'est le voisinage, mais c'est aussi l'entraide, quelque part. Tu sais, Madame Beaulieu, on l'a vu vieillir à côté, son mari est décédé. Mon fils, l'autre jour, il est allé l'aider à racler ses feuilles. Tu sais, elle était super contente parce qu'il donne un petit peu de sous. Puis, tu sais, je pense qu'il faut... on est tellement de monde, je pense que, tu sais, si on se parle pas puis qu'on regarde... On regarde par terre. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on a une Européenne qui est là aujourd'hui depuis 24 heures. Puis elle est drôle parce qu'elle dit les gens se parlent, les gens se regardent, les gens, tu sais. Je pense que déjà d'instinct, les Québécois, on a un peu ça. À Montréal, peut-être un peu moins, mais je pense qu'il faut le garder, tu sais. Puis on a une espèce de petit village ici. Puis.
C'est quand même le fun. Est-ce que c'est toi la chef du petit village? Est-ce que tu penses que. Non, mais dans le sens que. Est-ce que tu penses que ça prend quelqu'un qui prend la responsabilité de le faire ou ça vient naturellement?
Je pense que oui. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus rassembleurs de nature. Là. C'est sûr que moi, on me l'a inculqué petite, mais c'est sûr que je suis pas... La preuve, c'est que ça se fait pas partout dans toutes les ruelles, puis ça se fait pas non plus dans toutes les dans tout le voisinage autour. Donc, tu sais, puis là, en avant de la maison, on a planté des légumes, puis c'est vraiment écrit « nourriture à partager ». Puis moi, je pense qu'il faut réinventer les liens aujourd'hui, en 2015.
C'est une belle phrase. J'espère qu'il y a plein de belles phrases comme ça.
Ah. À chaque année, le premier vendredi de juin, se tient la fête des voisins, un événement qui rassemble plus de 200 000 personnes dans plus de 3 800 fêtes partout à travers le Québec. Bref, c'est une très bonne occasion pour tisser des liens entre nous et transformer notre vie de quartier. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Il m'a invité
plus chez eux. Fin les pluchettes de bananes. Y avait ses chums, sa femme, leur soeur pis le frère. Du ben bon monde à voir. J'ai bu du rhum, j'ai presque tombé d'un pomme. Yo 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 yo.
L'aventure d'Auroville en Inde, près de Pondichéry, compte parmi les plus intéressantes expériences de communauté humaine utopique. Un philosophe bengali, Sri Aurobindo, et une philosophe française, Mira Alfassa, mère, entreprirent en 1968 d'y créer le village idéal. Cette cité aurait la forme d'une galaxie afin que tout rayonne depuis son centre rond. Ils attendaient des gens de tous les pays. Ils vinrent seulement des Européens en quête d'un utopique absolu. Hommes et femmes construisirent des éoliennes, des ateliers d'objets artisanaux, des canalisations, un centre informatique et même une briqueterie. Ils implantèrent des cultures dans cette région pourtant aride. Mère écrivit plusieurs volumes relatant ses expériences spirituelles. Et tout alla pour le mieux jusqu'à ce que des membres indiens de la communauté décident de déifier Mère de son vivant. Elle déclina d'abord cet honneur, mais Sri Aurobindo étant mort, il n'y avait plus personne d'assez puissant à ses côtés pour la soutenir. Elle ne put résister longtemps à ses adorateurs. Ils la murèrent dans sa chambre et décidèrent que puisque Mère se refusait à devenir déesse de son vivant, elle serait une déesse morte. Elle n'avait peut-être pas pris conscience de son essence divine, mais cela ne l'empêcherait pas, pour autant, d'être une déesse. Les images des dernières apparitions de Mère la montrèrent prostrée et comme sous le coup d'un choc. Dès qu'elle essaie de parler de son incarcération et du traitement que lui infligent ses adorateurs, ceux-ci lui coupent la parole et la ramènent dans sa chambre. Mère devient peu à peu une vieille dame ratatinée par les épreuves que lui imposent jour après jour ceux qui prétendent la vénérer. Mère parviendra quand même à transmettre clandestinement un message à des amis d'antan. On cherche à l'empoisonner afin de faire d'elle une déesse morte, donc plus facilement adorable. L'appel au secours restera vain. Seront immédiatement exclus de la communauté ceux et celles qui tenteront d'aider Mère. Ultime moyen de communication entre ces quatre murs, elle joua de l'orgue pour exprimer son drame. Rien n'y fit. Probablement victime d'une forte dose d'arsenic, Mère mourit en 1973. Auroville lui réserva des funérailles de déesse. Auroville est l'une des rares expériences utopiques encore en cours.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
On s'en rend compte, le nombre de commerçants qui offrent des produits biologiques augmente constamment. De très grosses compagnies ont mis sur le marché des produits sans agents de conservation et à base de denrées bio. On peut penser au ketchup Heinz, à la chaîne de restaurants Saint-Hubert, qui tout récemment annonçait que les poulets achetés devaient maintenant être exemptés d'hormones et avoir été alimentés sainement. Ce ne sont que deux exemples, mais la société de consommation change, tant au niveau alimentaire que pour les biens et services. Pourquoi? Parce que le consommateur, et vous en faites partie, l'a demandé. Pour que vous ayez accès à des produits plus sains, plus écologiques, il faut le demander et acheter, même si c'est un peu plus cher, car à force de consommer un bien ou un service, sa popularité fera en sorte qu'il deviendra plus accessible. Acheter, c'est voter. Chaque sou donné à un commerçant a un énorme poids dans les décisions prises par les têtes dirigeantes des compagnies. Question de marketing. Et si c'est pour faire prendre une tangente positive, fonçons. N'hésitez pas à demander à votre épicier tel ou tel produit, de réduire l'emballage inutile, qu'il offre des produits plus écologiques ou plus locaux. À force d'entendre les mêmes demandes, il essaiera de satisfaire la clientèle, sinon elle ira voir ailleurs. Aussi, au lieu d'acheter dans des méga-magasins, encouragez vos commerçants de quartier. Ils en ont grand besoin. Non seulement plusieurs entreprises familiales, parfois centenaires, ont dû fermer à cause du monopole engendré par ces grosses compagnies, mais de plus, celles-ci offrent majoritairement des produits qui ne sont pas écologiques et qui sont malheureusement très souvent fabriqués par une main-d'œuvre d'esclavage dans des pays sous-développés. Alors parlons-en. Le pouvoir d'achat n'est pas une utopie.
Un texte de Julie Franqueur tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Marie-Claude Journeau.
La déception ou le deuil face au diagnostic ou à la différence de son enfant vient beaucoup de ce que l'on a osé rêver sans lui, pour lui. En amont de sa naissance et tous les jours qui nous lient à son petit soleil, on lui a fait un tracé lumineux sur un sentier qu'on présume idéal. Avec ce que l'on porte d'histoire, d'espoir et d'échec depuis notre propre genèse, on souhaite, secrètement ou de manière plus exubérante pour certains, qu'il torche l'espèce au grand complet et que sa vie soit douce, sans heurts ni fracas. Mais parfois, les enfants auxquels on offre le souffle ont une autre proposition. Ils débarquent dans nos vies avec leurs petites valises. Ils sont, font, rêvent, affirment, confrontent, perturbent. Ils troublent le pedigree de l'espèce et viennent foutre une baffe à l'ego humain. On a alors le choix de nos réactions. La déception, la résignation, la colère, le refus. Ou encore, laisser entrer le vent. Assumer de vivre pour toujours avec l'incertitude et d'aimer. D'aimer Aziz. Si on accepte, on apprend alors à aimer sans se projeter. Et malgré nous, la magie fait sa job de paillette. Et on évolue les pattes au présent, le vulnérable affirmé, et on découvre une route que seul ce petit improbable s'est tracé.
Texte et narration, Annick Daigneault.
Pour moi, tout avait pourtant si bien commencé. L'ambiance était bonne, le DJ excellent, la température agréable, les filles superbes, l'alcool à gogo, la drogue de qualité. Non, indéniablement, mes 33 premières années ont été vraiment réussies. Mais je ne vais pas traverser la vérité. Je ne suis pas un gentil garçon.
Ferme.
Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi. Mes pantalons, je les trouve dans le Vogue Italie et le Vanity Fair allemand du mois précédent l'acte d'achat. Quant à mes chemises, elles viennent de New York, Tokyo, Bombay, Guétari. Je suis désolé d'être tellement en avance sur vous, mais c'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Je vous drogue à la nouveauté. Et l'avantage de la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve longtemps. L'idéal serait que vous commenciez par me détester avant de détester l'époque qui m'a créé. Donc voilà, je me prénomme Octave.
Octave Parango.
Et je m'habille chez APC. J'ai passé ma vie à vous manipuler contre 75 000 francs par mois. Quand à force d'économie, vous réussirez à vous payer la bagnole de vos rêves, je l'aurai déjà démodée. Je m'arrange toujours pour que vous soyez frustrés. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
Bonne journée.
Votre appel est important pour nous. Au lieu de vous répéter 25 millions de fois qu'il faut garder la ligne pour conserver votre priorité d'appel, notre service hautement sophistiqué a analysé les données de vos habitudes de consommation Air Machin, votre carte à puce du transport en commun, ainsi que votre historique Internet pour sélectionner pour vous une liste de lectures qui, espérons-le, saura égayer votre journée. Merci de bien vouloir garder la...
When the evening sun go down.
Votre appel est important pour nous. Au lieu de vous répéter 25 millions de fois qu'il faut garder la ligne pour conserver votre priorité d'appel, notre service hautement sophistiqué a analysé les données de vos habitudes de consommation Air Machin, votre carte à puce du transport en commun, ainsi que votre historique Internet pour sélectionner pour vous une liste de lectures qui...
Number nine.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt, en début d'émission, nous avons entendu un monologue sur les relations, une capsule sur la communication non violente, un radiothéâtre sur l'art de tricoter son tissu social et l'utopie d'Euroville.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, l'ouverture par les lieux ou une autre façon d'intégrer les artistes. La Belle Verte, comme une autre façon de vivre ensemble, et l'Île des Gauchers.
Et pour conclure ce troisième épisode, Annick nous partage une tranche de sa vie familiale avec « Lettre crochue au papa qu'on m'a offert ».
Le système social actuel est défaillant. Il ne permet pas aux jeunes talents d'émerger, ou bien il les autorise à émerger qu'après les avoir fait passer par toutes sortes de tamis qui, au fur et à mesure, leur enlève toute saveur. Il faudrait mettre sur pied un réseau de lieux ouverts où chacun pourrait, sans diplôme et sans recommandation particulière, présenter librement ses œuvres en public. Avec des lieux ouverts, tout devient possible. Par exemple, dans un théâtre ouvert, tout le monde présenterait son numéro ou sa scène sans subir de sélection préalable. Seul impératif, s'inscrire au moins une heure avant le début du spectacle. Pas la peine de présenter ses papiers, il suffirait d'indiquer son prénom. Et ne pas dépasser 6 minutes. Avec un tel système, le public risque de subir quelques avanies, mais les mauvais numéros seraient hués et les bons seraient retenus. Pour que ce type de théâtre soit viable économiquement, les spectateurs y achèteraient leur place à prix normal. Ils y consentiraient volontiers car en 2 heures, ils auraient droit à un spectacle d'une grande diversité. Pour soutenir l'intérêt et éviter que les 2 heures ne soient, le cas échéant, qu'un défilé de débutants malhabiles, des professionnels confirmés viendraient à intervalles réguliers soutenir les postulants. Ils se serviraient de ce théâtre ouvert comme d'un tremplin. Quitte à annoncer, si vous voulez voir la suite de la pièce, venez tel jour, en tel lieu. Ce type de lieu ouvert pourrait ensuite se décliner ainsi. Cinéma ouvert, avec des courts-métrages de 10 minutes proposés par des cinéastes en herbe. Salle de concert ouverte, pour apprentis chanteurs et musiciens. Galerie ouverte, avec la libre disposition de 2 mètres carrés, chacun pour sculpteurs et peintres encore inconnus. Ce système de libre présentation s'étendrait aux architectes, aux écrivains, aux publicistes. Il court-circuiterait des lourdeurs administratives. Les professionnels disposeraient ainsi de lieux où recruter de nouveaux talents, sans passer par les agences traditionnelles qui font perpétuellement office de sas. Enfants, jeunes, vieux, beaux, laids, riches, pauvres, nationaux ou étrangers, tous disposeraient alors des mêmes chances et ne seraient jugés que par les seuls critères objectifs, la qualité et l'originalité de leur travail.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Les procès ? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète.
Ah oui ? Qui ? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire.
Ça fait du monde, hein ?
Ah, c'était la guerre civile.
Et après, il y a eu le boycott.
Le boycott ?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait.
C'était l'arme absolue, plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott.
Comment ça s'appelle déjà cette époque ?
Le chaos pré-renaissance.
Ah, il y a quand même une renaissance.
Ah oui.
Et...
Le film La Belle Verte. De loin, on les voit arriver. De petits regroupements provenant de toutes les directions de la Verte Vallée se rapprochent joyeusement les uns des autres. Marchant dans la simplicité des retrouvailles, chacun amène des victuailles à partager, leurs visages rayonnant de sincérité. Leurs habits simples et naturels font penser à un siècle passé. Les enfants, comme les vieillards, harmonieusement intégrés à la communauté, participent à la rencontre dans un esprit de pur partage. La joie fuse et tout s'organise naturellement dans un parfait consensus.
Est-ce là un portrait utopique de la vie sur Terre? S'agit-il vraiment d'humains? Nous découvrons progressivement que nous sommes sur la Belle Verte. Planète au continent unique dont le peuple se trouve à des années-lumière de conscience de ce que nous vivons présentement sur Terre. Cette civilisation étant plus évoluée que la nôtre, l'ère industrielle fait partie de leur préhistoire et le film nous démontre avec humour que la technologie n'est pas un critère d'avancement. Les personnages nous apportent une optique de simplicité volontaire vraiment épanouissante et saine, dans laquelle la vie est à ce point respectée que la santé des individus et de la nature reste entière. L'histoire se déroule peu à peu autour de Mila, interprétée par la réalisatrice du film Colleen Serrault, déléguée de sa planète pour une croisade sur Terre. À travers les yeux éveillés de cette femme, nous est proposé un regard à la fois critique et d'une innocence pure sur notre culture matérialiste et ses aberrations tant affectives qu'écologiques. Bien que ce film soit une fiction, il est bon de voir vers quel développement de nos facultés mentales et spirituelles pourrait nous mener le respect envers la vie. Ce film est accessible à tous par son humour. Cependant, pour peu que l'on soit prêt à rire de soi-même. Il nous porte à la réflexion en solo ou en groupe et devient un déclencheur de discussions existentielles. Comme les personnages du film, on peut avoir tendance à se remettre en question sur certains aspects de notre vie à la suite de son visionnement. À mon avis, trop peu de films de ce genre sont produits, mais en même temps, ce serait paradoxal puisqu'ils prôneraient l'abolition de leur propre existence. Alors, s'il vous reste un seul film à regarder avant de jeter votre télé, ce pourrait être celui-ci.
L'art d'aimer est sans doute le plus complexe des arts. Comment bien s'aimer? Comment se faire aimer? Alexandre Jardin nous propose d'essayer d'aimer l'autre à la hauteur de ce qu'il devrait se faire aimer. Son protagoniste de l'île des gauchers, Lord Cigogne, part à la conquête de l'amour véritable qu'il souhaite tant offrir à son épouse. Pour ce faire, il se dirige vers l'île des gauchers. Une île peuplée essentiellement de gauchers, ou du moins ambidextres, qui ont comme mission de vie d'aimer véritablement l'être cher. Aimer de nos jours, à quoi cela ressemble-t-il? Comment fait-on pour aimer véritablement l'autre? Commençons par dire que l'amour est maladroit. Aimer l'autre, c'est sans nul doute apprendre à être vulnérable dans notre gaucherie. Aimer, c'est montrer à l'autre que nous sommes prêts à être adroits. Nous devons accepter de faire des bêtises et de nous tromper. Lui montrer que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons aussi des erreurs. En essayant de consacrer sa vie à aimer dans la gaucherie, Alexandre Jardin ne nous montre-t-il pas à quel point l'amour est gauche et maladroit? L'homme se trompe souvent. L'homme croit savoir ce qui est bien, mais l'homme est aussi gauche. Pour bien aimer l'autre, il faut savoir se montrer vulnérable. Il faut également être capable de se montrer à l'autre, de s'ouvrir, sans gêne, sans retenue, et accepter qu'il nous découvre sous toutes nos coutures, sous tous nos angles. Nous devons apprendre à tolérer que l'autre nous juge et nous analyse, mais surtout lui accorder assez de confiance pour qu'il nous accepte dans nos défauts et dans notre maladresse. Accepter d'aimer l'autre signifie aussi lui accorder une intimité. Lord Cigogne l'apprendra à ses dépens. Se montrer l'âme à nu, mais aussi le corps. S'exhiber sainement à l'autre, car l'amour voit au-delà des petites imperfections. Alexandre Jardin parle de communication, de libre arbitre vis-à-vis de l'autre. Il est vrai que lorsqu'on désire quelqu'un, on se montre attirant et on lui dévoile nos plumes de paon pour essayer de le charmer. Mais après la conquête, il ne faut surtout pas tomber dans la routine et l'acquis. Chaque jour devrait être une reconquête de l'être aimé. Vêtir le chandail qu'il aime tant, porter ce doux parfum qu'il fait tomber, juste pour lui montrer qu'on tient à lui. Soyez prêt à prendre des risques pour cette personne. Soyez prêt à entrer dans le ridicule pour l'être cher. Montrez-lui vos différentes facettes et soyez amoureux. Aimez-le tendrement.
Un texte de Gabriel Garand, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration de Marie-Claude Journeau.
Un communicant est surtout un passeur de liberté, de rires et de larmes, un transmetteur d'émotions. Un communicant est aussi, à sa façon, un agent de changement pour un monde meilleur. Un communicant n'a pas besoin d'autre chose que d'entrer dans le cœur d'un autre communicant. C'est le plus bel endroit pour vivre une relation.
Jacques Salomé. L'écologie se définit par la relation des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Cependant, on ne doit pas oublier que les êtres humains vivent aussi des relations et que l'équilibre écologique entre eux est primordial. Cet écosystème humain se nomme l'écologie relationnelle. Jacques Salomé, auteur, psychologue, philosophe, jardinier des relations humaines, s'est intéressé à la vie relationnelle des gens. Il s'est rendu compte que certaines attitudes peuvent entraver ou favoriser une relation entre deux personnes. Il croit qu'il existe des moyens pour communiquer autrement. Selon lui, la communication authentique peut être enseignée et elle peut aider à bâtir des relations solides et positives. La communication sert à établir des liens entre les êtres humains. Idéalement, elle devrait permettre à chacun de partager son vécu, ses émotions et ses connaissances afin de faciliter le développement et l'expression du potentiel de tous. Les relations de couple, la communication parents-enfants et avec la famille, les échanges entre collègues de travail, entre amis et avec les gens que nous côtoyons dans notre vie quotidienne sont souvent chargés de malentendus, de malaises, de reproches et de violences.
Le système SAP se résume ainsi. Sourd, aveugle, pervers, pernicieux et énergivore.
Les mauvaises habitudes de communication se pratiquent inconsciemment, mais elles causent beaucoup de dégâts dans nos relations. On pense par exemple à l'injonction qui consiste à dicter aux autres ce qu'ils doivent faire, les messages de dévalorisation qui découragent l'interlocuteur, assaillis de reproches et les menaces, qui deviennent des ultimatums et qui servent à manipuler l'autre par ses émotions. Sans oublier la culpabilisation qui veut influencer l'autre en le rendant coupable. Ces attitudes installent entre les gens des rapports dominants-dominés où un individu cherche à prendre pouvoir sur un autre. En se laissant ainsi définir par les autres, la confiance personnelle est difficile à préserver. On répond alors aux besoins des autres sans réfléchir à ce que l'on veut vraiment et on cherche à établir aussi des relations où nous serons le dominant pour aller retrouver l'énergie qui a été prise. Ce système entraîne les gens dans une chaîne relationnelle où chaque personne qui se fait assaillir par un dominant relâche ensuite sa frustration sur quelqu'un d'autre. Pour sortir de ce cercle infernal, il est important de devenir conscient de ce qui se passe dans nos relations et être capable de s'affirmer par rapport aux frustrations vécues. Au lieu de se soumettre ou d'imposer ses idées à l'autre, il s'agit plutôt de confronter et de partager pacifiquement son point de vue. La confrontation est basée sur la capacité à se définir, non pas contre, mais face à l'autre. Elle n'est pas un affrontement. Elle ne vise ni à affaiblir, ni à diminuer, ni à disqualifier ou à dominer l'autre. La relation est basée sur l'égalité, le respect, la confiance et surtout l'ouverture.
La méthode ESPER, énergie spécifique pour une écologie relationnelle spécifique, propose des règles d'hygiène relationnelle qui permettent de s'engager dans un processus de changement dans notre façon de vivre nos relations avec les autres.
Premièrement, il ne faut pas oublier qu'on parle à l'autre et non sur l'autre. En essayant de le comprendre, en lui posant des questions, on évite ainsi de le juger et d'interpréter ses propos. Au lieu d'anticiper ce que l'autre va dire, on s'ouvre à la discussion et on invite chacun à partager son point de vue. Dans l'autre sens, on empêche aussi une personne d'interpréter notre discours et de parler sur nous. C'est en connaissant bien nos valeurs que nous pouvons affirmer nos idées aux autres. Il est donc important que chaque être prenne en charge le développement de son identité en prenant conscience de ses forces et de ses faiblesses. Ce n'est pas chose facile que de confronter nos idées car on prend alors le risque de se différencier, mais c'est ce qui conduit à l'épanouissement complet de sa personnalité et de ses relations avec les autres. La communication devient alors un moyen privilégié pour grandir et évoluer. De plus, les messages émis sont toujours porteurs de sens qui doivent être déchiffrés par les communicants. Les messages positifs apportent de l'énergie, de l'amour et de la vivance. Une relation saine nourrit et vivifie. Deuxièmement, la façon de demander, de recevoir, de donner et surtout de refuser est importante. Le partage de ses émotions amène aussi l'interlocuteur à comprendre ce qui est ressenti par l'autre. Il s'agit donc de ne pas confondre la personne et ce qu'elle dit. On essaie de se mettre à sa place et comprendre les émotions qu'elle vit pour se situer face à son discours. Cette démarche de changement peut être longue et difficile, mais si toute la société travaille dans ce même sens, nous pourrons vivre dans un milieu sain et ouvert où chacun aura sa place et son droit de parole.
Jacques Salomé propose des outils et des règles d'hygiène relationnelle très pertinents qui pourront rendre nos communications non violentes, plus créatives et plus vivantes. Le défi est de parvenir à devenir co-auteur de notre vie pour devenir un meilleur compagnon pour soi-même et pour autrui.
Jacques Salomé a écrit une quarantaine de livres disponibles en librairie. Il donne aussi des conférences et il a fondé une institution en France pour transmettre ses idées. Je vous suggère de lire « Heureux qui communique », publié aux éditions Albin Michel, pour commencer.
Un texte de Caroline Giguère, tiré de Aube, le recueil de solutions, narration, Philippe Laramé
et Sophie-Claudia Ouellet.
Mais cesse de m'engueuler! Je ne suis qu'un interprète! Je ne suis pas censé reconnaître une pluie de douille à un terminal d'ordinateur!
Parle à ton fils. Je suis revenu après 5 ans d'exil. Des millions de jeunes sans boulot, tous la main tendue, avec une chanson commune. Vieux père, voilà ton fils.
Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Je suis revenu un jour dans mon pays. Nye kamelo ye, ou te barala, ou be yarala, moho utala. Donc nindo beye, ou be olelara. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Madoke dae jamana chena Muna makudoke do denu chena Barateke denu chena Muna makudoke do denu chena Ikolitike denu chena Uwe yara yara mowa udara Yepe wala ton fils Yepe se ton fils Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Konama doke daye jamana chena. Munama kodo nyanyini denu chena. Ekoli tike denu chena. Munama kodo ke doye denu chena. Bara tike denu chena. Oui, yala yala mo dala lulu. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, parle à ton fils. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père. Voilà ton fils.
Lettre crochue au papa qu'on m'a offert. Mon père a eu 60 ans. Je fais une exception. Je sors de l'anecdote et je me plonge au cœur du mien. Je me garde une distance timide et je ne dirai pas tout, mais pour le plaisir de lui chanter autre chose que bonne fête, pour le plaisir de me péter les bretelles d'être sa fille, je retire des petits bouts de laine qui couvrent certains de nos mystères père-fille et je déclare mon amour papouesque en public. V'là donc. Tout nu, des mots doux qui ne vous concernent pas. Des mots doux que je sème fièrement avec la même candeur lucide que celle de mon enfance. La même arrogance qui défiait les silences. Il y a de ces dizaines et de ces vécus qui inspirent le littéraire et qui donnent du swing au verbe. Il y a de ces étapes, ces sentiments pleins et enfin calmes qui donnent envie, les yeux pleins d'eau de lever son verre et de serrer le monde contre son bide. Mon père a eu 60 ans. Et après ces 3 dizaines traversées ensemble, avec heurts et fracas, je le célèbre. Même s'il aurait préféré une vidéo, même si mes métaphores tordues le feront loucher, je le célèbre en lui écrivant à haute voix, ici, pour le rendre immortel. Mon papa est un être faillible, vrai, sensible, débrouillard, tenace, travaillant et créatif. Ce papa qui m'a été offert n'a pas de gants blancs. Il fait tout à la mitaine, à la dure. Il a sculpté sa vie dans l'effort, la persévérance, dans l'amour, avec maladresse, force et de manière durable. Mon père ne connaît pas les détours. Il avance doucement et des fois même pas pantoute. Il est têtu. Mon père apprend même contre son gré et devient presque romantique en sortant désormais du char pour un lunch au Saint-Tube. En période de crise, il est resté droit dans la tourmente. Il m'a montré que le bordel et les obus de mon mitraille, les erreurs font de nous des imparfaits, mais que le lettre nous rend magnifiques. Qu'être vulnérable, c'est pas être fragile et que la beauté te part du vibrant, te part du véritable. Mon père m'a montré à me rendre au bout de mes tâches. Il m'a appris à me voir jolie. Il m'a aussi convaincue que le petit Chris dans Ruelle la méritait sa taloche ou son coup de 2x4. Enfin. Mon père m'a appris à me tenir debout et à voir au-delà des évidences. Mon père, à l'âge officiel des grands papous, 60 ans de vie et la moitié de paternité. Eh bien, ce père-là, on l'a célébré, là où il se sentait le mieux, chez eux. Dans son cocon de famille large et bruyante, l'amour plein la baraque. Heureux que la vie nous eusse gardés aussi longtemps ensemble, on s'est regardés dans le fond de l'âme en passant par nos miroirs. Et nos yeux ont crié, plein de pétillants convaincus. Il n'y en a pas de bonheur simple, mais il y a des bonheurs tout court. Papa, retiens juste ça au pire. Je t'aime. Puis il n'y a aucune tempête qui ne fera jamais prendre le large du sol.
C'est ce qui conclut le troisième épisode de Aube. Toutes nos émissions sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez 2 secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Jean-Baptiste Gardarin, Annick Daigneault, Marie-Claude Journaud et Caroline Legault.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.